Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
Les appels à encadrer au plus vite l'intelligence artificielle se multiplient après Yoshua Bengio, le parrain de l'intelligence artificielle au Québec. C'est Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, qui déposait un rapport qui proposait d'adopter notamment une loi cadre pour encadrer donc l'intelligence artificielle. Il y a 250 experts qui ont participé à cette grande consultation. On en parle avec le ministre de l'Innovation et de l'économie et bien d'autres choses. Bonjour, M. Fitzgibbon.
Bonjour, M. Robitaille.
Alors, je commençais par une question très large. Est-ce que ça vous fait peur, vous, l'intelligence artificielle? Vous en parlez souvent comme d'une occasion d'innovation, d'affaires, mais est-ce que parfois, à écouter Yoshua Bengio, par exemple, puis tous ceux qui lancent des appels, est-ce que ça vous fait peur?
Écoutez, je pense que c'est clair que M. Bengio a allumé beaucoup de gens au risque de l'IA et j'en suis parfaitement conscient. Évidemment, je suis plus près de tout ça au niveau des entreprises, au niveau de l'innovation sociale, donc je suis assez à l'aise avec ce que peut faire l'IA. Mais on doit reconnaître que la population, plusieurs ont des réticences, au niveau de l'emploi, par exemple, au niveau de la santé, nos données. Alors, c'est sûr que je suis sensible à ça, puis autant je veux aller vite, parce que je pense que le Québec, on a un avantage comparatif hein, en termes de notre notoriété. Autant il faut aller vite pour l'implantation en entreprise ou dans nos institutions, autant que si on le fait mal, ben, les gens vont braquer à juste titre et vont dire « Oh, c'est quoi l'impact sociétal de l'IA? » Mm-hmm. Alors, j'en suis un peu, pas inquiet, mais je pense que je suis sensible, je devrais dire.
Sensible.
L'aspect social, ouais, je pense que c'est le bon.
Parce que quand Bengio dit qu'une machine surhumaine... aussi intelligente qu'un humain pourrait être développée d'ici 20 ans, voire même quelques années. Moi, je me souviens qu'en débat, une fois, il y a quelques années avec M. Bengio, moi, j'étais celui qui avait peur de l'intelligence artificielle. Puis lui, il dit, ah non, pour l'instant, c'est juste l'intelligence d'une grenouille. Mais là, c'est drôle, c'est lui qui a basculé dans le camp des inquiets. Alors, vous, face à ça, vous demeurez uniquement sensible, c'est ça?
Ben, sensible, puis évidemment, le mandat que j'ai donné à M. Sirois, Sophie Damour, Lobvia, tous les groupes d'experts,
ouais.
Militait en fait que j'étais sensible, puis j'étais conscient que fallait faire quelque chose, parce que c'est sorti, M. Bengio est sorti, puis ça a épuré beaucoup de monde. Puis je pense que les Américains l'ont fait venir au Congrès, il est allé dans un forum en Grande-Bretagne, alors on voit que les gens sont soucieux. C'est sûr que les modèles génératifs, les fameux ChatGPT et d'autres font en sorte qu'aujourd'hui, oups, ça va aller jusqu'où? Alors, sensible, accentué, qui méritait, je pense, qu'on fasse l'effort qu'on a fait. Maintenant, il faut voir exécuter cet encadrement-là, tout en allant vite.
Comment?
C'est ça qui est le paradoxe. Là, parce que
comment
moi,
on
moi,
fait
pense,
ça?
Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est très, très complexe. Alors, le groupe indépendant qui a préparer le rapport. Je pense que ça va être eux. Il faut créer un groupe virtuel, puis Luc et Sophie Damour vont être là-dedans, France Saint-Élémy, il y a beaucoup de monde, M. Lamonde, beaucoup de monde compétent là-dedans. Il faut que eux, qui sont légitimes par rapport à ça, nous mettent en garde des balises, puis pendant ce temps-là, en entreprise, au gouvernement, Thierry Kerr doit utiliser l'IA pour le gouvernement. On sait qu'on en a besoin. Mmh. En santé, M. Dubé, il en a besoin pour que le régime fonctionne. Il faut aller vite. Dans les programmes, c'est culture, éducation, santé, économie, même mon ministère, mais en même temps, ben, ça prend des balises. Ça, c'est pas facile, parce qu'il va falloir avoir les deux leviers en même temps, mais je pense qu'il faut pas perdre de momentum, mais en même temps, c'est clair que ça va trop vite, puis si les gens sont pas confortables, on parle des données, on a parlé de ça longtemps, il y a un an ou deux.
Ouais.
Les gens ont pas confiance, ben, ça marchera pas, ils vont braquer, puis on va avoir un vent de face. Alors, c'est complexe, c'est sûr.
Une loi cadre, c'est ce que propose Luc Sirois, l'innovateur en chef. Vous donnez combien de temps pour faire ça, une loi cadre?
Ben, premièrement,
et ça va être avec Éric Kerr, j'imagine, ça va être à deux têtes?
Définitivement, je pense que toute la question de la législation, ça va être Éric Kerr, c'est son ministère. Par contre, la loi cadre, il faut faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qui existent, ma loi pour l'économie, la loi de la santé, toutes les lois ont d'enchâsser des règlements qui vont devoir peut-être être ajustés. Fait qu'avant de faire une loi parapluie, faut regarder aux différentes lois. J'ai parlé à François-Philippe Champagne, puis Champagne a fait le projet C-27, le projet, le bill fédéral. J'ai parlé à des gens d'Angleterre. Tout le monde se préoccupe de ça. Alors, il va falloir, je pense, le faire de façon cohésive. Il faut être cohérent, je m'excuse. Il va falloir travailler avec ces gens-là, parce que je veux pas qu'on soit les premiers, là. C'est pas une course pour faire une loi.
Ouais.
Mais en même temps, c'est clair qu'il va falloir en chasser des choses, des balises, parce que si on en chasse des choses, si les gens deviennent confortables, puis qu'on suit une meilleure pratique, je vais faire pousser l'accélérateur pour qu'on aille plus vite. Et Éric Kerr aussi, dans les différents ministères. Fait que la loi cadre, pour moi, c'est... Parlons d'encadrement. On verra quelle forme ça va prendre, mais faut aller relativement rapidement.
Oui, j'arrive pas à imaginer ce que ce serait exactement. Puis, il y a un député de l'opposition qui s'inquiète de l'intelligence artificielle. C'est Fred Beauchemin, chez les libéraux, qui réclamait, par exemple, un mandat d'initiative. Donc, il y a deux questions que je voudrais vous poser. D'abord, allez-vous inclure les députés dans votre réflexion, ou ça va être juste des gens extérieurs au Parlement? Puis ensuite, à quoi ça va ressembler, une loi 4? J'essaie d'imaginer que j'y arrive pas. Donc, je vous... Répondant à la première question, ouais.
C'est ça. Ben, premièrement, quand j'ai donné le mandat au Conseil de l'innovation du Québec, j'avais invité les membres d'opposition et Québec solidaire était venu et Parti libéral. Donc, on a voulu faire ça transpartisan, parce que l'IA est beaucoup plus large que le parti politique, je pense.
C'est ça.
On est d'accord avec ça. Deuxièmement, on a eu une session durant l'automne dernier, une journée de mise à point. J'ai invité toutes les oppositions, mais il était pas venu, je pense, mais c'est pas grave, il avait été invité. Et là, le rapport qui est sorti hier, c'est un rapport qui a été présenté à tout le monde. Alors, c'est clair que c'est un débat qui va être non-partisan. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez absolument raison. Alors, comme je mets beaucoup d'emphase sur l'encadrement, ouais, plus qu'une loi cadre. Je pense que Luc Sirois lui-même, quand on lui demande c'est quoi une loi parapluie, il y aurait la misère à l'expliquer, parce qu'il y a plusieurs segments. Parce que moi, je pense que c'est l'emploi. Il faut faire attention aux emplois. Les gens ont des emplois. Qu'est-ce qui va arriver avec nos emplois? Moi, je pense qu'ils vont être bonifiés, mais en même temps...
Je l'ai entendu donner un exemple. Il disait, ben, il faudrait qu'on garantisse aux gens qui ont affaire à l'IA, qui n'ont pas affaire à un robot, mais que... Ou leur donner le choix de faire affaire à un robot ou non.
Ouais, par exemple, là, si la culture...
C'est pas un gros cadre, là, je trouve.
Non, mais quand même, c'est la culture ou les médias. Les journalistes, ouais, ont mené un article qui sort. Je serais bon de savoir la source. C'est M. Robitaille ou c'est ChatGPT? Ouais. Je voulais savoir. Là, je pense qu'il y a des choses comme ça, mais là, on en chasse...
Je suis bien réel, moi, actuellement, je vous le jure.
Mais vous comprenez. Alors, je pense que, par exemple, M. Lacombe en culture se préoccupe de différentes choses, mais je pense, ouais, que dans ses lois, à lui, il y a probablement... matière à faire des ajustements. L'économie, je vais parler de moi 30 secondes. On fait beaucoup d'investissements. Hein. On investit dans l'IA fondamentale avec Yoshua, évidemment, Mila, Ivado, Scale AI, mais là, on commence à investir dans les entreprises. À un moment donné, peut-être qu'il va y avoir des cadres plus rigides que ceux qu'on a présentement. On a une revue diligente qu'on fait, évidemment, essayer de voir si où va l'argent, ça va-tu faire des robots tueurs, ouais, ou demain, les choses de base.
Ça, on veut pas ça, ouais.
On pense qu'on est correct. Mais honnêtement, une revue diligente, ça peut être peut-être déficiente par bout. Alors, il va falloir peut-être revoir dans quelle société on va investir en IA, puis quels sont les cadres qu'on va avoir, la reddition de comptes, par exemple. Ça, ce sera pas une loi parapluie, ça va être la loi d'Investissement Québec. Alors, moi, je pense qu'il faut, en premier lieu, regarder tous nos lois. Est-ce qu'on, ouais, peut faire des ajustements? Si oui, on va arrêter là. Et sinon,
Quel genre d'ajustement?
Ben, quels sont les critères pour investir? Comme Investissement Québec, okay, qui donne des prêts à des entreprises qui vont implanter l'IA. Là, c'est assez général.
Mais on a mis un paquet de fric dans l'intelligence artificielle ces dernières années. On se souvient d'Element AI, qui a finalement été vendu à des Américains pour une bouchée de pain. Ça, je me souviens, vous étiez sceptique face à Element AI. Puis là, depuis ce temps-là, il me semble que ça va mal dans les champions de l'industrie, là. C'est Imagia qui a fait faillite, Ledartec qui est à moins 65% depuis son entrée en bourse. Ça va mal, finalement, dans l'innovation. J'entendais même Luc Sirois dire que ça décline l'innovation au Québec.
Ouais, là, on parle de deux choses, mais venez à votre point. Je pense que on a gagné au Québec. Ça fait des années, le Parti libéral avait commencé à investir massivement, Mme Anglade, dans Mila, et moi, j'ai continué. Je l'ai même augmenté. Donc, je pense qu'au niveau... la recherche fondamentale, on a gagné une notoriété qui est exceptionnelle. On est pas 6-7e dans le monde. Bon, Après ça, ça vous disait quoi comme pratique dans votre ouais. vie à vous, dans ma vie à moi? La question de vie à Element AI. Element AI, effectivement, ça n'a pas été un succès. Par contre, je dois avouer que ServiceNow, qui est l'entreprise américaine qui a acheté Element AI,
ouais.
a augmenté le nombre d'employés qu'elle a à Montréal. Alors, la bonne nouvelle de tout ça, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu l'entreprise, puis le pays peut-être va s'en aller aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que le talent québécois qui a émergé avec nos investissements en ressources mentales, ben les gens veulent le voir. Moi, je parle à Alstom, je pense à Airbus. Ils regardent ce qui se passe. On va être là. Alors, moi, je pense qu'on a encore un attrait comparatif, le Québec, pour aller chercher des entreprises. Maintenant, est-ce que ça va présenter quoi pour l'entreprise, l'IA, en termes d'augmentation de la productivité? Parce qu'en bout de piste, on parle de ça, là. Pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ont pas assez du monde, l'immigration va être contrôlée. Mais là, s'il n'y a pas de productivité qui augmente, ben, les entreprises vont avoir une limite dans leur croissance. Donc, on pense que l'IA va aider. Mais là, on est encore au balbutiement, hein, parce que y a pas grand livre qui a été écrit dans le monde, dire voici comment l'IA s'applique. Fait qu'on est encore au stade de dire.
Mais avez-vous des exemples? Est-ce que vous qui visitez des entreprises, qui parlez à des entrepreneurs, des innovateurs, avez-vous des exemples clés, là, pour faire comprendre aux auditeurs puis aux téléspectateurs qu'est-ce que ça peut représenter comme application?
Ben, oui, Air Canada, Air Transat, on l'utilise pour séduire les vols. Comment qu'on aurait été, imaginez là, les avions qui arrivent, l'équipage, les clients. Alors, l'IA permet d'avoir une meilleure performance pour optimiser l'utilisation des avions, par exemple. Je regarde le système de transport. Le transport, c'est incroyable. Le STM, par exemple, commence à peine, mais imaginez toute la cédule des autobus. Là, on parle d'autobus électriques en plus. Là, on va les électrifier, on va les charger, plutôt, je m'excuse. On va les charger, où ils vont aller. Je pense que beaucoup de nos services vont devoir passer par ça. Puis on a des exemples qui commencent à se faire, mais la PME est pas là encore. Le PME, c'est plus long un petit peu, puis c'était normal. Donc, les grandes entreprises vont commencer, les couches tard.
Il paraît que les PME sont même pas assez numérisées au Québec. Ben, c'est comme la base, parce que si on veut de l'intelligence artificielle, il faut des données.
Puis, et d'ailleurs...
Ça, qu'est-ce que vous faites pour ça?
Ben, ça, on a eu le débat en chambre la semaine passée. Des partis libéraux nous accusaient peut-être que les PME, on les laisse tomber. Ben, je disais, ben, on les aide à devenir plus productifs. Par exemple, le fameux programme que j'ai lancé, l'offensive transformation numérique. C'est un programme où on accompagne humainement le chemin critique pour évaluer qu'est-ce qu'on va... Vous avez raison, qu'est-ce qu'on va algorithmer? T'sais, l'IA, c'est un algorithme, les données, mais si on n'a pas de données, on ne peut pas rien algorithmer. Alors, on commence les données. Les données sont massives dans une entreprise. Quelles sont les données qui sont pertinentes? Parce qu'il y a des données qui ne sont pas pertinentes. Alors, ce chemin-là critique de se numériser, de savoir quoi numériser... beaucoup de PME sont même pas là encore, mais ils sont pas là, mais en même temps, ils vont comprendre vite quand ils vont voir le bénéfice. Alors, l'OTN, c'est un programme pour accompagner avec des experts. On travaille avec Innocent, l'OQT, l'ITHQ, les restaurants, pour dire, accompagnons les entreprises pour comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent numériser, c'est quoi le bénéfice. Quand t'arrives au bout, ben là, paf, on va rentrer des programmes pour produire d'innovation chez Investissement Québec, puis éventuellement, l'IA va rentrer pour avoir un levier encore plus grand. Mais il y a un chemin critique qui est très long, là.
Ouais. Est-ce qu'il y a des exemples déjà de possibilités là-dedans, très précis, concrets?
En fait, l'IA, si on veut le simplifier, là, ça peut soit permettre d'être plus efficace au niveau de la production manufacturière, les rejets, comment est-ce qu'on gère les rejets, comment est-ce qu'on gère la chaîne d'approvisionnement pour avoir trop d'inventaire, donc c'est l'optimisation de manufacturière dans le cas des produits. Les services, comprendre le marché, c'est où le marché? T'sais, on a beau vendre des gugus, là, qu'on fait à beaucoup, mais là, où on va aller dans le monde par rapport à la compétition? Il y a plusieurs analyses de marché, de données du marché qu'on peut recevoir et analyser. Parce que souvent, les entreprises, parce que comme nous autres, hein, on est les journaux, il y a combien d'années de journaux par jour? 25, moi, j'ai pas le temps. Là, on a des revues de presse, c'est un mauvais exemple, mais faut trouver une façon de prendre l'information qui nous est disponible, la rendre digestible, la rendre plus appropriée. Alors, l'IA permet ce filtre-là.
Je sais qu'il y a une réflexion à Hydro-Québec sur l'intégration de l'intelligence artificielle.
Oui.
J'imagine que ça pourrait être très efficace. On parle de vous beaucoup à cause de votre déclaration, c'est lave-vaisselle, mais je veux dire, c'est pas fou, là. Je veux dire, est-ce qu'il y aurait une manière de se faire dire par l'IA comment mieux consommer?
Vous avez absolument raison, à deux niveaux. premier niveau, je pense, à l'intérieur du Québec. Moi, j'ai visité les centres de contrôle, là, puis il faut imaginer qu'est-ce que c'est. Là, on voit les barrages, les deux grandes piscines qu'on a, là, les lignes de transmission. Là, on parle de mettre de l'éolien. L'éolien, c'est intermittent. Ça veut dire que, maintenant, quand il vend plus, là, tu fais quoi? Tu sommes la valve, tu prends l'eau de l'autre valve. Écoutez, la gestion de l'interconnexion du renouvelable avec l'hydraulique, là, c'est un autre monde. Alors, clairement, Hydro-Québec va devoir, je l'ai visité quand je suis allé en Suède, dans d'autres pays, optimiser leur réseau informatique pour la gestion des interconnexions qui va provenir aussi de l'intelligence artificielle. Pourquoi?
OK, les réservoirs sont comme des piles, puis là, il faut relier ça à l'intermittent que sont le solaire puis l'éolien.
Et peut-être qu'avec l'IA, on va pouvoir prévoir mieux
qu'est-ce qui se passe
au niveau de la météo, par exemple. Puis je regarde Brainbox, une compagnie, je vais pas faire de promotion de compagnie, mais Brainbox, qui gère la distribution électrique entre bâtiments. Et là, ce qu'ils font, eux autres, là, avec des algorithmes, ils vont regarder, par exemple, l'édifice, il est nord-sud, il est au nord. Mais là, le nord, il va être nuageux, il y a une tempête de neige qui s'en vient, donc il n'y aura pas besoin d'avoir la même préoccupation pour l'air climatisé. On parle de l'été, je me trompe de saison, là, mais alors toute la prévisibilité de la météo va avoir un effet important. C'est un exemple un peu. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de IA maintenant dans les satellites hein, qui vont faire un peu un diagnostic. La météo, je pense, c'est un très, très bon exemple. Mm-hmm. Puis dans le cas d'Hydro-Québec, si on va plus loin sur l'utilisation, chez vous, là, vous avez deux voitures, trois lave-vaisselle, vous avez une piscine creusée, vous avez là, mené dépendant de la météo, dépendant des voisins, dépendant de Hydro-Québec, dépendant du prix, parce que là, vous allez avoir peut-être le gaz naturel renouvelable d'un bord, vous allez peut-être avoir un éolien sur votre... Bon, pas un éolien, mais un panneau solaire sur votre maison. Mm-hmm. Non, mais comment est-ce qu'on va gérer l'entrée? Moi, je pense que la technologie va permettre à Hydro-Québec d'être plus performante. Il va permettre à Michael Sebia de pouvoir gagner sur l'efficacité énergétique. La vaisselle, c'est l'exemple qui a fait rire bien du monde. T'sais, je savais que j'avais raison. C'était peut-être une drôle d'image, mais au lieu de laver à main, on peut laver de la vaisselle, mais il va partir 2 heures du matin, effectivement. Puis pour qui va partir? T'sais, tout le monde me dit, bon, il va te lever.
Termine par une petite question rigolote. Quelle est la question la plus saugrenue que vous avez posée à ChatGPT?
Non, pas saugrenu, mais moi, j'ai allé plusieurs reprises. Je me demandais qu'il me donne un peu mon background, puis on m'a dit que j'étais membre du Parti libéral.
C'est-tu vrai?
Je l'ai été un jour.
OK. Vous l'avez déjà été?
En fait, je suis pas membre, j'ai voté René Lévesque, j'ai été libéral, je suis un peu agnostique à la politique un peu, mais c'était farce, mais j'ai fait des recherches sur moi-même.
OK. Finalement,
c'est plus facile, puis bon, c'était pas parfait.
Est-ce qu'il vous connaissait bien?
Moyennement bien. Il me connaissait bien au niveau politique, au niveau depuis, disons, quelques années, pour des raisons évidentes, parce qu'il y a beaucoup d'articles, mais avant mon entrée politique, j'étais un peu plus obscur.
Ah, OK, c'est bien. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue.
Plaisir.
Puis, je vous souhaite une loi cadre pour quoi l'année qui vient?
Ben, clairement, on va devoir avoir une reddition de compte. Le rapport est assez sophistiqué. Il y a 12 recommandations, 25 sous-recommandations. Il va falloir sur une base, je pense, trimestrielle, qu'on fasse état d'où on est rendu, sinon les gens vont croire qu'on a fait ça pour rien.
Au plaisir.
Merci beaucoup, bonjour.
Au revoir. Je rappelle que Pierre Fitzgibbon est ministre de l'Innovation, entre autres choses. Là, il y a beaucoup de choses, il y a l'énergie, puis tout.